Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de la Ligue des droits de l'homme. Droits de l'homme, droits du vivant, c'est notre chronique du jour. Pour en parler, je reçois Michel Brocard, responsable de la commission environnement de la Ligue des droits de l'homme. Michel, vous êtes quelqu'un d'engagé depuis très longtemps dans la défense des droits de l'homme et des droits du vivant. Quel est votre constat aujourd'hui de la situation du vivant, justement, en ce qui concerne l'agriculture, aujourd'hui ?
Avant de développer ma réponse, je tiens à dire que je ne parle pas au nom de la section de la Ligue des droits de l'homme, mais en mon nom personnel, comme témoin riche d'expérience. L'ensemble du vivant, ce que tout le monde peut constater, le climat se détériore largement, les eaux sont polluées, les rivières sont pollués, l'air est pollué, les aliments sont pollués, les conserveries utilisent les polluants, et puis l'agriculture là-dedans a une part de responsabilité qui n'est pas mince.
Vous dites que la part de responsabilité de l'agriculture n'est pas mince. Vous en faites le constat aujourd'hui. J'ai l'impression que vous avez la conscience de cet état de dégradation. C'est une conscience qui est très ancienne, Michel Brocard. Elle date de quand ?
Je crois, avant de répondre à votre question, j'ai dit tout à l'heure que la responsabilité de l'agriculture n'est pas mince dans la dégradation du climat, la dégradation de l'environnement et de tout ce qui est écologique. C'est qu'il y a une agriculture, qui est l'agriculture biologique, qui prend actuellement une grande dimension, et qui, Dieu sait, aurait dû être encouragé depuis très longtemps. Je parle de l'agriculture. Il y a une grande différence avec l'agriculture dite productiviste, qui est encouragée par les chambres d'agriculture aujourd'hui et par les fédérations des syndicats d'exploitants agricoles. Alors cette agriculture-là, elle tend à une chose, c'est de correspondre à l'économie de marché, à la croissance, à l'indice de croissance, au PNB national. On insiste à investir en agriculture de toute façon. Plus on investit en agriculture, plus on s'agrandit. Aujourd'hui, dans la plupart des villages, le nombre des exploitations agricoles ont fondu. Il reste un ou deux exploitants ou trois agriculteurs de taille de 200, 300 ou 400 hectares. Mais la quarantaine d'exploitations qui avaient une cinquantaine d'hectares ont disparu aujourd'hui, avec le système coopératif à la clé, évidemment.
Comment tout a commencé ?
Natif d'une famille nombreuse, dans une exploitation très pauvre, considérée pauvre à l'époque, je veux dire pendant la guerre, avec que 13 hectares, dont 13 hectares qui appartenaient à 41 propriétaires. C'est dire le morcellement des parcelles et la façon de travailler. Donc la situation était très difficile et très injuste entre paysans déjà. Quoique, j'en reparlerai plus tard peut-être, l'esprit coopératif a quand même dominé la situation dès la sortie de la guerre. Où en est-on ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Et comment en est-on arrivé là dans cette agriculture dite productiviste qui n'a pas aucune conscience et aucune considération sur l'état du vivant ? Eh bien, tout a commencé, à mon avis, à la sortie de la guerre, avec le plan Marshall. Le plan Marshall, c'était une idée américaine, mise en place plus ou moins par Jean Monnet et Schuman, et qui consistait à convertir tous les paysans en droit de travailler et toutes les institutions de formation et d'instruction, d'enseignement, à convertir les gens à une technologie moderne qui permet d'améliorer la productivité.
Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfants précis à ce sujet ?
Oui, bien sûr. La question est bonne. Je me souviens, par exemple, de notre instituteur qui, dans les années 48-49, avait reçu un sac de nitrate, ou c'était nitrate ou ammonitrate, je ne sais pas, mais il devait demander aux élèves d'écrire dans une prairie bien visible des chemins ou des routes, le mot azote dans des herbes, dans des prairies qui n'avaient jamais reçu d'engrais chimiques. Forcément, le mot azote resplendissait de loin, en vert foncé, à travers une prairie un peu décolorée, avec une herbe qui avait 1 mètre de haut, alors que le restant de la prairie était encore à 40 cm. Et des exemples comme ça ont bientôt eu fait de convertir toute la foule des paysans, forcément. Quelques temps après, tous les paysans allaient à la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, il n'y avait pas encore la FNSEA à ce moment-là, pour acheter des sacs d'engrais chimiques, qui étaient aussi merveilleux, quoi. Alors, ça a commencé comme ça. Parce que je tiens à dire que le système a utilisé complètement tous les services, les structures et le monde associatif pour nous convertir en quelque sorte, c'était les premiers chemins du productivisme.
Donc, dépendance des terres et conditionnement des cerveaux.
Conditionnement des cerveaux, forcément. Parce que celui qui ne parlait pas emploi en engrais chimiques était vraiment un arriéré. Mais on a été formaté, oui. J'étais étudiant en école d'agriculture d'abord. Et après mes études d'agronomie, j'étais enseignant moi-même. Nous étions obligés de participer à la formation vers le productivisme, évidemment. La direction des services agricoles du Jura nous avait imposé en 62 de laisser place à des professeurs, des ingénieurs, qui dépendaient d'une association qui s'appelait l'APEP, Association pour l'encouragement à la productivité. Alors, naturellement, après 2 ou 3 séances, j'ai bien vu de quoi il en retournait. Il fallait absolument utiliser les engrais. Parce que cet ingénieur de l'APEP ordonnait aux élèves de prélever des terres pour les analyser, et il n'y avait que 3 éléments qui étaient considérés, l'azote, l'acide phosphorique, potasse, tout le monde le sait, c'est enfantin de le dire, mais en aucun cas, on n'a jamais abordé la question de la bactériologie des terres et la capacité à la terre d'élaborer ces éléments.
D'être un organisme vivant.
Au contraire. L'emploi d'engrais, justement, tuait le vivant de la terre, et c'était l'objectif de tuer le vivant de la terre pour que amener à des productions intensives, plus ou moins artificielles, comme on nourrit la plante, comme on nourrit un canard gras pour faire du foie gras, quoi. Voilà, c'était le sujet, en fait, hein. Et moi qui avais voulu interrompre l'action de l'APEP à cette époque-là, la direction des services agricoles m'a averti quelque temps après que si je continuais à m'opposer à l'APEP, mes élèves ne pourraient pas être présentés au brevet d'aptitude professionnelle ou au CAP. Voilà dans quel contexte on était. Mais ça a perduré, cette affaire-là. Maintenant, les lycées agricoles, à mon avis, sont en train, on raisonne d'une autre façon, même les écoles d'agronomie commence à voir les choses d'une autre façon, mais il a fallu du temps. C'est-à-dire, c'est de 1945 à 2000, en quelque sorte. Il y a un petit tournant là, qui s'exerce depuis les années 2000, au début de ce siècle, vers une agriculture un peu plus intelligente et une agriculture qui respecte la vie.
Donc le monde agricole et les agriculteurs étaient sans cesse dans une course à l'échalote vers plus de gigantisme, de grandes propriétés, plus d'engrais, plus de pesticides.
Obligatoirement, comme les prix... Là, moi, j'en veux pas aux agriculteurs. Les agriculteurs, à mon avis, les agriculteurs dits productivistes sont victimes, beaucoup plus victimes qu'acteurs, à mon avis. Et je crois que il est intéressant de se repencher sur cette question. À partir du moment où on se lance dans le productivisme, on a commencé par l'achat des tracteurs, et ça, c'est les Américains qui nous ont mis le pied à l'étrier, en quelque sorte.
La course aux armements, après la guerre ?
Après la course aux armements, les premiers tracteurs, c'est Massey Harris, c'est Ferguson, c'est Farmall, etc. On les a vus arriver dès 1950 en France. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Pour les engrais, c'est pareil. Et après, ça a été le cas des pesticides, l'usage des pesticides. Comme la plante en général, la culture en général, c'est plutôt affaibli par le manque d'assolement, le manque d'élevage humifère des terres, forcément, la plante est bien plus fragile. Or, si elle est prête à être malade, ben faut la soigner. Donc, on emploie des pesticides.
Ce que vous voulez dire, c'est que les pesticides ont le rôle de pompiers pyromanes.
En quelque sorte.
Quelles sont les sortes de pesticides, Michel Brocard ?
Oui, on accuse les pesticides de toutes sortes de maladies, c'est vrai. Cancérogènes, développement d'Alzheimer, développement des malformations, réduction de la fertilité, tout ça, c'est ce qui concerne l'humain. Mais c'est étendu. Ces dégâts-là sont étendus à tous les végétaux et à tout le règne animal. Et c'est pour ça qu'il y a actuellement une désynchronisation du monde végétal, une désynchronisation du monde minéral sur la Terre, quoi. Et c'est ce genre de déséquilibre, ce genre de soif de gigantisme qui cause des maladies. Bon, vous me posez la question, quelles sont les sortes de pesticides ? Je vous renverrai assez facilement sur les études qui ont été élaborées par Génération Future sur ce sujet. Je mets à l'écart les herbicides. Il y a des herbicides qui ont été utilisés il n'y a pas très longtemps, la cimazine, l'atrazine, le glyphosate, le célèbre glyphosate, dont on connaît la dangerosité, qui ne veut pas être admise par Monsanto, qui est le principal producteur, mais la dangerosité est telle qu'on retrouve les traces, on retrouve le glyphosate comme la cimazine, comme l'atrazine, les herbicides, dans les nappes phréatiques. C'est là le problème majeur de ces produits. C'est pour ça qu'ils sont interdits. Aujourd'hui, le ministère a autorisé l'emploi des néonicotinoïdes. Ça, c'est un systémique. Et comme tous les systémiques, ils pénètrent la cellule végétale. La cellule végétale jusqu'au génome. Pour modifier l'arrêt de croissance, par exemple, des tiges, ce que vulgairement nos paysans appellent les raccourcisseurs de tiges, parce qu'on booste tellement la plante, on booste tellement la terre, l'absorption de la plante, par exemple, a du gigantisme, que si on laissait faire la nature, on aurait des blés de 2 mètres de haut. Alors on emploie des raccourcisseurs de tiges qui sont des systémiques hormonaux qui vont jusque dans le génome de la plante pour freiner la croissance des tissus végétaux et réserver l'aliment de la plante à l'épi. C'est comme ça pour tout, pour beaucoup de céréales.
L'homme a joué à l'apprenti sorcier en changeant la nature. Les paysans sont contraints à des normes de rentabilité de plus en plus contraignantes pour y arriver. Est-ce que le lien n'est pas uniquement un lien industriel avec l'industriel ?
L'agriculture productiviste est dépendante complètement de l'économie de marché. Évidemment. C'est l'expression même, c'est l'image même du néolibéralisme, l'agriculture productiviste. Mais à l'écart, l'agriculture biologique, l'agriculture respectueuse des droits...
Est-ce que ce n'est pas un facteur de solitude pour les paysans ?
Bien sûr, bien sûr. La preuve... C'est que dans un village, il y a 50 ans, on avait encore une trentaine d'exploitations familiales. Aujourd'hui, il y en a un, deux ou trois. Alors, dans ce système-là, dans cette configuration-là, il n'y a plus de solidarité entre paysans. Il est la plupart du temps tout seul. Donc, il n'y a plus de coopération.
Qu'est-ce que vous pensez du film « Au nom de la Terre » ?
Le film « Au nom de la Terre » est très cruel. Enfin, il démontre la cruauté du système. Jusqu'au suicide de l'agriculteur. Rien que d'y penser, de me rappeler de ce film, ça, j'en ai la chair de poule dans les jambes. Par contre, ce film, il n'a pas abordé ce qui l'a entraîné à ça, je veux dire le système néolibéral, c'est-à-dire l'indice de croissance. Il faut aménager, il faut croître, il faut toujours améliorer le PNB. Et c'est pour ça qu'on encourage les gens, dont les agriculteurs, à de nouveaux investissements, de nouvelles utilisations de produits, etc.
Michel Brocard, donc là, on a parlé d'une version donc, qui est noire de la situation. Est-ce que vous avez aujourd'hui donc, des raisons quand même de croire à un autre monde ?
Je crois que tout est lié. Je crois que la lutte contre la dégradation du climat, la lutte pour la rénovation des rivières qui sont empoisonnées, des côtes, des littoraux qui sont empoisonnés. Cette lutte pour le vivant, pour le vrai, doit nous amener à reconsidérer nos modes d'agriculture. Or, aujourd'hui, j'ai plaisir à constater, après une cinquantaine d'années de combat sur le sujet, que l'agriculture biologique se développe. Je pense que le résultat se situe là, quoi, en quelque sorte.
Vous m'aviez parlé de coopération au départ. Vous disiez que vous viviez dans une certaine pauvreté, mais que la coopération était importante dans votre village au départ. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être repensé ?
On peut coopérer que si on est plusieurs. Si on est tout seul, il n'y a plus de coopération possible. ni de solidarité, ni d'esprit solidaire, ni d'esprit d'écoute, ni d'attention de l'autre quand on est tout seul. Dans les années 50-60, nous étions 44 exploitants à apporter du lait, chacun avec des petites quantités. Les laits sont mélangés. Il suffisait qu'un des producteurs produise un mauvais lait pour que l'ensemble de la production soit perdu pour l'ensemble des producteurs. Cet esprit coopératif-là a démontré quelle était la discipline, la rigueur et le respect de l'autre. Et c'est de cette coopération-là que je vis et que je prône.
Nous repartons sur cette note. Amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Merci Michel pour cette contribution et ce témoignage. À bientôt, amis auditeurs. À bientôt.